Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, 5h30 à Paris, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette première demi-heure africaine sur la radio du monde. Avec le Soudan à la une du journal, le premier ministre civil, nommé il y a un mois, qui entend nommer prochainement son gouvernement, hors de tout parti politique, dit-il, mais la guerre fait rage avec toujours autant de violence. Une passe d'armes en Zambie, autour des funérailles d'Edgar Lungu. La famille de l'ancien président ne veut pas qu'elle se tienne comme le président Hichilema le prévoit. Elles auront donc lieu en Afrique du Sud. La réponse sèche au Cameroun d'un autre natif de la région du Sud, Jacques Famenongo, ministre d'État, pilier du parti au pouvoir, qui fustige la tribune des 8 universitaires ces derniers jours, eux qui appellent à tourner la page Paul Biya en octobre. Le chef de la diplomatie rwandaise qui se dit prêt à signer et à appliquer l'accord de paix avec la République démocratique du Congo trouvé cette semaine à Washington. Et puis le foot aussi ce matin, 3 matchs encore dans le championnat congolais, 3 matchs couperet pour le tout-puissant Mazembe s'il veut jouer une compétition continentale l'année prochaine. La violence de la guerre au Soudan ne montre toujours aucun signe d'affaiblissement, mais le camp d'Abdel Fattah al-Burhan semble toujours vouloir croire à une forme de normalisation politique. Hier encore, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est publiquement alarmé de l'intensification des combats, particulièrement dans les provinces du Darfour et du Kordofan, des violences aveugles, dit Volker Türk, qui touchent des populations civiles. Malgré cela, le Premier ministre nommé le mois dernier, Kamil Idriss, annonce son intention de former un nouveau gouvernement, 22 membres venus de la société civile, avec des experts indépendants également, loin des appareils politiques. Alexandra Branjon, ce serait une première après la démission forcée d'Abdallah Hamdok il y a 4 ans.
Un gouvernement de l'espoir, a annoncé le Premier ministre Kamil Idriss, qui a indiqué vouloir des technocrates non partisans et promis d'effacer les quotas politiques et le népotisme. Il a insisté sur des nominations basées sur l'expérience, la compétence ainsi que l'intégrité. Il s'agit d'un message positif envers la communauté internationale, estime un chercheur, alors que certains pays réfléchissent déjà au rétablissement des relations diplomatiques avec l'administration à Port-Soudan, relations interrompues après le coup militaire de 2021. Mais cette déclaration inquiète également. Elle balaie l'accord de paix de Djouba de 2020 qui prévoit un partage du pouvoir avec les groupes armés du Darfour. Sous cet accord, Djibril Ibrahim, chef du GEM, un des groupes armés du Darfour, était devenu ministre de l'économie et Mini Minawi, chef du SLM, mouvement de libération du Soudan, ministre des mines. L'exclusion de ces groupes armés risque de mettre à mal la coalition entre ces mouvements du Darfour et l'armée soudanaise qui se battent ensemble contre les paramilitaires du général Emeti, notamment au Darfour.
Alexandra Branjon, la Zambie plongée en pleine dispute sur les funérailles de son ancien président, Edgar Lungu, décédé il y a 2 semaines en Afrique du Sud. Et c'est là que sa dépouille sera inhumée, annonce finalement sa famille après plusieurs jours d'une vive controverse. Il était prévu que le corps de l'ex-dirigeant revienne en Zambie et que des funérailles nationales lui soient organisées. Mais sa famille dénonce notamment le traitement judiciaire qu'elle a subi lorsque l'actuel président, Hakainde Hichilema, a pris le pouvoir. Explication Clotilde Hazard.
La famille d'Edgar Lungu a annoncé vendredi dans un communiqué que l'ancien président allait être enterré à Johannesburg, selon leurs vœux, lors d'une cérémonie privée. À la dernière minute, elle avait refusé de laisser le corps de l'ancien président à l'armée sud-africaine. Il était prévu qu'il soit rapatrié avec les honneurs militaires mercredi pour être exposé publiquement avant son enterrement. Mais les proches de l'ancien président ont refusé que Hakainde Hichilema accueille la dépouille. Le président avait réagi dans un discours à la télévision et déclaré que la Zambie était surprise que le corps n'ait pas été rendu avant de décréter la fin du deuil national et le retour à la normale. Une semaine de deuil avait été prolongée de 9 jours jusqu'au 23 juin, période pendant laquelle les événements de loisirs étaient suspendus, où les stations de radio devaient jouer de la musique solennelle et les drapeaux étaient en berne. Depuis qu'Edgar Lungu avait perdu le pouvoir en 2021, sa femme et ses enfants ont été arrêtés et inculpés pour corruption. Leurs partisans dénoncent une vendetta politique. Selon l'avocat de la famille qui s'est exprimé dans les médias, le défunt avait précisé avant sa mort qu'il ne voulait pas de la présence de Hakainde Hichilema à ses funérailles.
Une précision de Clotilde Hazard, merci. Plusieurs organisations de la société civile kenyane s'apprêtent à commémorer les violentes répressions des manifestations de juin 2024. Cette Mandamano, rassemblement contre le projet de loi de finances qui avait été très sévèrement réprimé par les forces de l'ordre. Il y a un an, Nairobi allait être secouée par plusieurs jours de contestation. Le 25 juin, des manifestants parvenaient même à s'introduire dans l'enceinte du Parlement. Aujourd'hui, les organisations civiles dénombrent 60 morts dans la répression policière. Et Gaëlle Lalex, des enquêtes toujours au point mort.
Kennedy a 12 ans le 25 juin 2024 quand il part chercher un livre d'école chez un ami. Kennedy ne rentrera jamais à la maison. Il sera touché par une balle perdue tirée par la police. Jacinta Nyango, sa mère.
J'ai regardé une vidéo sur TikTok. Quelqu'un qui transportait un corps sur une moto. Il criait, ils ont tué un enfant. J'ai vu ça sur le téléphone d'un ami et là, j'ai reconnu mon bébé. Une fois à l'hôpital, j'ai retrouvé mon fils dans un frigo, mort. J'ai besoin qu'on rende justice à mon bébé.
For my baby. Tom a perdu son frère dans les mêmes circonstances à Githurai, dans la banlieue de Nairobi, où des échauffourées avaient éclaté en marge des manifestations. Sans nouvelles pendant plusieurs jours, c'est finalement à la morgue que Tom retrouvera son frère.
À la morgue, j'ai vu mon frère. Il était simplement allongé, une balle dans la tête, du sang coulait. C'était tellement traumatisant. C'est encore très dur, surtout pour ma mère. On a tout conservé dans la maison, ses vêtements, les souvenirs. C'est très dur pour elle et pour nous.
Depuis un an, les familles des victimes demandent justice en vain, Janja Maina, leur avocate.
Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment. L'inspection générale de la police continue d'enquêter. Nous n'avons aucune idée d'où ils en sont. On leur en parle tous les 15 jours et ils nous répondent, soyez patients, on rassemble des preuves. Et ça fera bientôt un an. C'est très préoccupant pour nous.
Pour rendre hommage aux victimes de la Mandamano, un rassemblement pacifique est prévu à Nairobi le 25 juin. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
Nairobi où il est 6h37. Et 4h37 à Yaoundé, on en vient au Cameroun. Et à ce ministre d'État pilier du parti au pouvoir qui s'indigne de l'appel des notables de la région du Sud. Une tribune diffusée ces derniers jours dans la presse et dont nous vous parlions ici même sur RFI hier matin. Ce texte où 8 personnalités, essentiellement des universitaires, venues de la région d'origine de Paul Biya, appellent à tourner la page de sa présidence et à s'engager pour le changement. Tout cela bien sûr à l'approche de l'élection présidentielle dans 4 mois. Réaction donc de Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, lui-même natif de la région Sud. Il réitère à Amélie Tullet son soutien indéfectible au chef de l'État.
Le Sud n'accepte pas cette tentative de parricide politique, titre Jacques Famendongo. Dans sa communication, le ministre qualifie les signataires de la lettre ouverte d'organisation groupusculaire aussi sectaire que grégaire. Jacques Famendongo affirme que même si Paul Biya est natif de la région Sud, il est un homme-nation et que sa région ou sa tribu, c'est le Cameroun. Le ministre revient sur un discours de campagne de 1992 du président Paul Biya et reprend ses mots sous forme d'interrogation. Beaucoup parlent de changement, mais pour changer quoi ? Veut-on changer l'homme par qui le changement est venu ? Le peuple n'est pas dupe, il sait bien distinguer la vanité de la vérité. Autre citation du chef de l'État reprise par Jacques Famendongo, qui déclare que nul ne peut démontrer qu'aucune route n'a été bitumée, aucun hôpital, aucun lycée construit en 4 décennies. Beaucoup a été fait par le chef de l'État, écrit le ministre, beaucoup reste à faire avec lui. Paul Biya, on le rappelle, ne s'est pas encore lui-même déclaré candidat pour un 8e mandat en octobre, mais selon les textes du RDPC dont Jacques Famendongo est un pilier, Paul Biya, en tant que président du parti, et le candidat du parti à la présidentielle.
Amélie Tullet, l'accord de paix en passe d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'a plus vocation à être modifié, annonce à RFI du chef de la diplomatie rwandaise, qui confirme bien que le texte trouvé à Washington ces derniers jours est prêt à être appliqué en l'état, du moins du côté de Kigali. Les ministres des Affaires étrangères doivent se retrouver dans 6 jours à Washington pour signer cet accord. Selon le Rwanda, donc rien ne s'y oppose. Côté congolais, il reste notamment à éclaircir le rôle que le Parlement doit jouer ou non, Patient Ligodi, dans la ratification de ce texte.
Le ministre rwandais insiste, il n'y aura plus de modification au texte. L'accord est finalisé et son entrée en vigueur est prévue immédiatement après la signature. Dès le 27 juin, précise-t-il, certaines mesures devront s'appliquer, notamment la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi prévu dans un délai de 30 jours. Il était initialement prévu que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame signent l'accord à la Maison-Blanche en présence de Donald Trump, à l'image de la tentative de Luanda en décembre 2024. Mais selon nos informations, cette option soutenue par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche, a été écartée ces derniers jours. Il n'est toutefois pas exclu que les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se rencontrent. Un sommet est prévu à Washington autour de Donald Trump avec les présidents congolais et rwandais ainsi que d'autres dirigeants africains. S'agissant de l'accord, une inconnue subsiste, les mécanismes de ratification du moins côté congolais. À Kigali, aucune procédure parlementaire n'est prévue. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait annoncé fin mai que tous les accords de paix et de coopération économique feraient l'objet d'un examen parlementaire, mais la session a pris fin il y a 5 jours.
Un accord qui, en tant que tel, ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition politique en RDC. Éclairage à lire sur RFI.fr. La RDC encore et ses terrains de foot avec un calendrier en forme d'ultimatum pour l'un des clubs phares du pays, le tout-puissant Mazembe, qui est en ce moment 4e du championnat. Il reste 3 rencontres à disputer. Si les Corbeaux veulent jouer une Coupe d'Afrique l'année prochaine, ils doivent faire carton plein. Sauf que leurs 3 adversaires sont précisément les 3 équipes qui sont devant eux au classement. Le premier coup près va tomber dès cet après-midi, Pascal Mwangala.
D'abord, le match face à Maniema Union qui passe pour l'actuel classico de RDC selon plusieurs sportifs au pays. Et c'est avec raison à en croire le coach des Corbeaux, Lamine Ndiaye.
L'adversaire n'est pas n'importe qui. C'est notre dauphin de l'année dernière. Une équipe qui s'est bien comportée en compétition intercontinentale. Donc on s'attend à... effectivement, un match très, très, très relevé.
Ensuite, il y aura le derby face à Lopopo qui compte 2 victoires sur les 3 derniers avant le match contre les Aigles du Congo, club révélation de l'année et challenger dans le top 3. Lamine Ndiaye et les Corbeaux doivent être les plus conquérants.
On a du retard, il faut se donner à fond et pas se mettre dans les calculs.
3 matchs à Lubumbashi, dont 2 à Kamalondo, leur temple. Le public devrait lui aussi jouer sa partition pour pousser l'équipe à la qualification à l'une des compétitions africaines.
Les publics sont revenus un peu plus nombreux lors du dernier match. On a apprécié. J'espère qu'ils seront là encore plus nombreux pour pousser leur équipe, les porter à la victoire.
Impossible n'est pas Mazembe. Cette devise des Corbeaux est une nouvelle fois mise à l'épreuve. Et c'est tant mieux pour le spectacle et le suspense, soutiennent d'aucuns. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Le foot est un mot du mondial des clubs. On suivra aujourd'hui les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns contre les Allemands du Borussia Dortmund, 2e journée du groupe F. Les Mamelodi qui sont en tête pour l'instant. Babacar Diarra nous dira tout cela dans 1 heure pour le premier journal des sports.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Pour l'heure, il est 3h42 en temps universel et voilà quelques mots de la suite du programme largement musical ce matin. Puisqu'on vous présente les rappeurs gaéliques de Nicap, trio sulfureux tout droit venu d'Irlande du Nord, ils ont droit à un biopic dont nous parle Sophie Torlotin. On reçoit aussi la fondatrice du festival Gnawa, en ce moment à Essaouira, Neila Tazi, invitée de RFI dans 5 minutes. Et puis on laisse la place et la parole aux confrères du magazine Jeune Afrique. Enquête cette semaine sur la rivalité Félix Tshisekedi-Joseph Kabila. Mais c'est d'abord dans l'est de la République démocratique du Congo que nous conduit le reportage de la rédaction. Province de l'Ituri, territoire de Mahagi, sur les rives du lac Albert, coule la rivière Kakoï. Elle sépare en deux la chefferie de Mokambo. Et si on s'y arrête ce matin, c'est parce que cette rivière est un peu particulière. Sur la rive ouest, le quotidien est parfois marqué par la présence et par les exactions des groupes armés. La Codeco, notamment, qui prétend défendre la communauté Lendu. Mais la rive est... non, elle est paisible, elle n'a jamais connu d'attaque et les habitants se sentent justement protégés par cette rivière. Ils lui attribuent des vertus presque mystiques sur lesquelles d'ailleurs il reste très discret. Coralie Pierret a voulu comprendre.
Là nous sommes devant la rivière Kakoï, qui est une rivière qui se jette dans le lac Albert en contrebas. Aujourd'hui il y a de l'agitation parce qu'on est jour de marché. Les motos traversent très lourdement chargées de produits vivriers comme des boissons, des légumes, du poisson.
Je m'appelle Wiroto Mongui Jackson, je suis taximoto et je suis en train de livrer le chargement. Ce sont des boissons sucrées.
Et vous allez livrer ça de l'autre côté de la rivière ?
Non, je n'ai pas l'habitude de traverser parce qu'il y a de mauvaises nouvelles qui nous arrivent de l'autre côté.
En contre-haut de la rivière, côté est, une multitude de villages densément peuplés.
Ici, pas de groupe armé. Même les rares policiers n'ont pas d'armes. Les habitants se sentent protégés grâce, disent-ils, à Kakoï, des pouvoirs attribués à cette rivière que les habitants préfèrent garder secret et que l'un des chefs de groupement de la zone, Louis Lokodjo, détaille brièvement.
Kakoï, c'est infranchissable.
Ça veut dire infranchissable.
Infranchissable. C'est groupe armé. Ils ont peur. Puis c'est... Si ils songent à venir, par exemple, avec la guerre, la rivière devient infranchissable. Ça se gonfle ou ça peut changer la couleur aussi.
Et donc, il y a, de ce côté de cette rivière, il n'y a jamais eu d'attaque?
Non, non. Nous sommes bien ici.
Depuis 2019, beaucoup fuient les attaques de la CODECO qui sévit du côté ouest de la rivière, rappelle Grégoire Toumito, le coordinateur local de la société civile de la chefferie de Mokambo, séparée en deux par la rivière Kakoï.
On constate vers l'ouest de la chefferie l'absence de l'autorité de l'État, parce qu'on constate que les autorités locales comme les chefs de village, les chefs de groupement ne vivent pas dans leur milieu. Et même la police qui s'est aussi déplacée. Et compte tenu des attaques répétitives, la population s'est déplacée pour vivre à l'est.
Au total, 19 camps officiels et 6 informels sont dans la zone, habités par des dizaines de milliers de déplacés. Coralie Pierret, de retour de la chefferie de Mokambo. RFI.
Et deuxième volet demain justement de ces reportages avec les déplacés qui fuient les violences de la CODECO. RFI 3h46, TU les titres. Et à la une de l'actualité internationale de ce samedi 21 juin, l'armée israélienne qui annonce avoir lancé une nouvelle vague de frappes aériennes contre des sites de stockage et de lancement de missiles en Iran. 9e jour de la guerre entre les deux pays. Israël qui affirme avoir retardé d'au moins 2 ou 3 ans la possibilité pour l'Iran de disposer de la bombe atomique. L'Iran qui est prêt à envisager à nouveau la diplomatie une fois que l'agression aura cessé. C'est ce que déclare pour sa part le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, après une rencontre à Genève avec des ministres des Affaires étrangères européens. Pendant la journée d'hier, l'Iran a tiré une salve de missiles contre Israël qui a fait 19 blessés à Haïfa où au moins un bâtiment a été touché. Aux États-Unis, Mahmoud Khalil, figure clé des manifestations pro-palestiniennes sur le campus de l'université de Columbia, a été libéré hier soir après plus de 3 mois de détention. Libération sur ordre d'un juge qui s'est dressé contre l'administration Trump. Et puis en France, quelques 620 étrangers en situation irrégulière interpellés mercredi et jeudi lors d'opérations de contrôle dans des gares et des bus, annonce hier du ministère de l'Intérieur. Plusieurs syndicats ainsi que le mouvement antiraciste, le MRAP, avaient dénoncé une escalade nauséabonde visant des travailleurs et des travailleuses qui se rendent sur leur lieu de travail et qui vont le faire désormais la peur au ventre. Comme chaque samedi, on ouvre notre antenne aux confrères de Jeune Afrique. Le magazine consacre cette semaine une enquête à la rivalité entre le président congolais Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. François Soudan, directeur de la rédaction de JA, en parle avec Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Romain Gras et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe, un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire.
Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe. Il m'avait alors répondu, c'est la barbe du rebelle qu'au fond, je n'ai jamais cessé d'être. Alors, depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier, pour son premier discours officiel depuis son départ de la présidence, il y avait là le drapeau, l'hymne national et une barbe soigneusement rasée pour laisser place à une simple moustache, comme autant de signes d'une volonté de faire chef pour revenir aux commandes de ce qu'il appelle une nation en détresse. Alors, tout ça, vous me direz, c'est anecdotique, mais il y a un côté justement qui est très personnel, qui est très subjectif dans la démarche de Kabila. Un côté défi, provocation, un côté revanche aussi. Il estime que l'accord électoral qu'il dit avoir conclu avec Félix Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté et il vit manifestement très mal les enquêtes financières sur son entourage ainsi que la levée de son immunité parlementaire, laquelle ouvre la voie à un éventuel procès par contumace devant la justice militaire, Catherine.
Mais au-delà de ces raisons personnelles que vous venez d'évoquer, François Soudan, que peut-on supposer des objectifs politiques de Joseph Kabila ?
D'abord de se positionner comme un acteur central dans la résolution de la crise politico-sécuritaire et dans un deuxième temps, ce qui est évidemment très loin d'être acquis, revenir aux affaires. Alors il y a deux processus de règlement de la crise de l'Est actuellement en cours. Le premier, qui est porté par l'administration Trump, vise à obtenir la signature à Washington d'un accord de paix RDC-Rwanda qui pourrait être conclu dès la fin de juin. Et le second, piloté par le Qatar, tente laborieusement de faire aboutir des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. Le problème pour Kabila, c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Son problème également, c'est l'ambiguïté de ses relations avec le Rwanda et avec le M23. Autant son projet à lui semble être de changer le régime à Kinshasa, autant ceux du Rwanda et du M23 semblent se cantonner à une logique de contrôle des deux Kivus comme zone tampon sécuritaire pour le Rwanda, comme zone d'influence communautaire pour le M23. En fait, Catherine, dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi. Rien de plus. Il lui faut donc exister. Ça n'est pas chose facile.
Et cela paraît d'autant plus compliqué pour l'ancien président que son successeur, Félix Tshisekedi, semble lui être en pleine confiance.
Oui, tout à fait. Il est en train de compenser sur les plans diplomatiques, politiques, les revers de son armée sur le plan militaire. Il y a eu l'adoption de la résolution à l'ONU qui demande le retrait du M23 et des forces rwandaises. Il y a eu l'élection de la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité. Au niveau régional, Kinshasa est parvenu à empêcher le Rwanda de prendre la présidence tournante de la C2EAC. Et sur le plan intérieur, il y a eu cette accolade spectaculaire avec Martin Fayoulou et cette ligne de fracture qui semble se dessiner entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous Catherine Potet. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. L'invité de la rédaction ce matin sur RFI est la fondatrice du festival Gnawa et Musique du Monde. Rendez-vous culturel immanquable d'Essaouira au Maroc, 26e édition qu'on vous fait vivre depuis avant-hier sur nos antennes. Les Mahalem, les grands maîtres de cette musique, de cette culture Gnawa ancestrale, invitent année après année d'autres courants musicaux du monde. Neila Tazi assume la portée politique, diplomatique de ce festival, vectrice de paix aussi, en tout cas elle l'espère. Elle répond aux questions de notre envoyé spécial à Essaouira, Guillaume Thibault.
Bonjour Neila Tazi.
Bonjour.
Partager, débattre, ça fait partie de l'ADN du festival Gnawa, encore plus cette année, avec ce monde complètement déboussolé.
Oui, un monde déboussolé, en perte de repères et un monde inquiet, au regard de tous les conflits, pour la plupart d'entre nous, avec un sentiment d'impuissance. Et ce festival qui s'accroche et qui continue d'avancer, de défendre ce qui fait son ADN, son esprit, créer un espace où tout le monde a la possibilité de se retrouver dans l'égalité, le respect, la dignité, quelle que soit notre condition sociale, notre nationalité, pour continuer de nourrir une vision d'espoir, une vision d'un avenir positif, d'un avenir possible, d'un vivre ensemble qui est tellement essentiel.
On voit que les budgets des armées partout dans le monde augmentent, que les budgets de la culture malheureusement baissent. Vous êtes aussi confronté à cette difficulté économique.
Au Maroc, le budget de la culture augmente. Parce que la culture s'impose de plus en plus comme un outil essentiel de notre développement territorial, du défi, des enjeux de l'emploi. Et puis c'est aussi un élément essentiel de notre stratégie diplomatique. C'est un soft power. Et nous travaillons, nous œuvrons au quotidien pour montrer que le Maroc est un pays qui est en train de donner un exemple, une voie à suivre, pour continuer à croire dans ce vivre ensemble, comme je disais.
Vous avez créé en 2012 aussi un forum qui est devenu l'une des matrices du festival, un lieu de débat sur ces questions migratoires. Vous avez eu des mots très forts en disant « le monde n'a jamais été aussi connecté et le monde est en train de se refermer ». C'est notre drame aujourd'hui.
C'est notre drame, c'est ce qui nous inquiète. Ce sont les artistes et les penseurs qui vont façonner l'avenir parce que on a tendance à trop considérer le monde intellectuel et le monde artistique comme étant secondaire par rapport à ce qui peut être prioritaire, les aspects économiques et bien sûr les politiques. Mais la culture fait partie d'une vision politique. Et aujourd'hui, nous défendons le fait que la culture doit être au top des priorités. Le forum fait partie de notre projet culturel. Le Festival Gnawa et Musique du Monde, c'est une vision, c'est un grand projet culturel national qui prend de plus en plus d'ampleur. Je rappelle qu'il y a ce forum des droits humains qui est un espace de liberté, d'expression. Mais nous avons aussi créé une chaire universitaire avec l'université de l'UM6P pour débattre des hybridations culturelles et le point de départ est ce qui se passe autour de la culture gnawa, qui nous permet de nous réapproprier notre africanité, de créer des liens autour de cet héritage commun de la diaspora afro, afro-américaine, afro-brésilienne, afro-latino, voilà. Pour dire que nous avons une histoire commune, évidemment, ça crée des affinités, ça suscite des projets, ça suscite des collaborations, ça suscite des rêves et des vocations.
Je voulais revenir sur la création d'ouverture du festival. Vous avez mis en place une nouvelle fusion entre un grand Maalem du Maroc, Hamid El Kassri, et des musiciens sénégalais. Est-ce que le continent africain ne doit pas aussi arrêter de regarder vers les États-Unis, vers l'Occident, et encore plus tisser ces liens-là?
Je pense que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui est très important. Ce qui se passe sur la scène politique africaine démontre clairement que cette transformation est en marche. Beaucoup de pays s'inspirent de ce que nous faisons au Maroc, que ce soit sur la préservation du patrimoine, mais aussi de la dynamique culturelle et politique et économique aussi qui est suscitée à travers des événements comme le Festival Gnawa Musique du Monde. Aujourd'hui, ce festival est devenu une fierté pour le continent.
Et avec tous ces conflits, avec toutes ces guerres, comment on continue à lutter ?
Les Gnawa, c'est une longue et vieille lutte très ancienne qui vient de l'époque de l'esclavage. Donc ce sont des générations d'hommes et de femmes qui se sont affranchis. C'est une culture minoritaire qui était marginalisée des siècles après la traite des esclaves et même l'abolition de l'esclavagisme, qui porte les stigmates du passé. Et ce qui se passe aujourd'hui autour de cette culture est fondamental, parce qu'aujourd'hui les Gnawa sont au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Je vous laisse imaginer le respect qu'ils suscitent auprès de l'ensemble des populations. La dynamique que connaît la communauté des Gnawa aujourd'hui est devenue un exemple pour l'ensemble des citoyens du Maroc qui ont pu à un moment ou à un autre se sentir peut-être à l'écart ou incompris. Je pense que quand on est habité par l'esprit de la lutte, on doit être pleinement conscient que la lutte ne s'arrête jamais. Il y a toujours une raison de lutter, alors nous continuons de lutter.
Merci Naila Tazi.
La fondatrice du Festival Gnawa et Musique du Monde, invitée RFI de Guillaume Thibault, entretien à retrouver sur RFI.fr. De la musique comme instrument politique et revendicatif, voilà exactement ce que propose la dernière escale de cette demi-heure d'information. Ils sont trois rappeurs venus de Belfast, ils scandent leurs textes en gaélique, mais ils sont explicites dans leurs messages et leurs revendications. Revendications qui leur valent d'ailleurs parfois des ennuis judiciaires. Niqab font l'objet d'un biopic présenté au Festival du film de Sundance, entre docu-fiction et comédie noire. Présentation Sophie Torlotin.
Why don't you just speak the Queen's English?
Le réalisateur Rich Pepiat a rencontré les rappeurs du groupe irlandais Niqab il y a 7 ans. Le cinéaste d'origine britannique a eu l'idée de leur proposer ce film hybride entre fiction et documentaire.
C'est inhabituel de suivre des musiciens qui jouent leur propre rôle. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire un biopic musical quasiment en temps réel. On ne regarde pas la carrière de quelqu'un, mais l'ascension.
The band is growing.
Speak English.
More Gaelic.
Le cinéaste filme l'engagement de ces jeunes issus des quartiers catholiques de Belfast West et qui rappent dans la langue irlandaise pour affirmer leur identité.
Ils rappent en gaélique, une langue parlée par quelques 8000 locuteurs en Irlande du Nord. À l'origine, c'est une langue de paysans. Il existe 40 mots différents pour décrire un chant, mais il n'existe pas de terme pour désigner la kétamine, une drogue de rue. Donc pour parler de leur vie, ils ont inventé le mot. Comme la kétamine est un tranquillisant pour chevaux, ils l'ont appelé Kapal, qui veut dire cheval en gaélique. Et un an plus tard, les jeunes de Belfast utilisaient ce terme.
Mo Chara, Moglaiba ainsi que DJ Provey sont nés ou ont grandi après le cessez-le-feu de 1998 qui a mis fin à des décennies de guerre civile entre catholiques irlandais et unionistes protestants favorables au maintien dans le Royaume-Uni. Pour Niqab, rapper en gaélique est une façon de dénoncer le colonialisme de la puissance britannique.
Niqab représente les enfants du cessez-le-feu. Les problèmes sociaux, la pauvreté et la consommation de drogue sont des mots toujours actuels. Dans le film, on parle des traumas transgénérationnels, ces traumatismes dont on hérite dans ses gènes.
Une attitude rebelle qui peut aller loin. Mo Chara a ainsi comparu cette semaine devant un tribunal de Londres pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah au cours d'un concert. Rich Pepiat.
À chaque fois, on se dit qu'ils sont allés aller trop loin et que leurs provocations vont signer la fin du groupe. Mais leur aura ne fait qu'augmenter, car ils ne recherchent pas le succès ou l'argent. Ils ont un engagement politique et restent attachés à leur communauté.
Si plusieurs des concerts de Kneecap ont depuis été annulés, le groupe, soutenu par de grands noms comme Massive Attack ou Pulp, reste à l'affiche du grand festival anglais de Glastonbury le 28 juin prochain.
Sophie Torlotin pour ce biopic sur les rappeurs nord-irlandais de Kneecap. Merci beaucoup Sophie, ça marque la fin de cette première demi-heure d'information sur Radio France Internationale. Afrique Matin, réalisé par Laurent Hérault, merci à lui. Sébastien Duhamel vous accompagne de nouveau dans une demi-heure à 4h30 en temps universel. Afrique Matin, ce sont aussi vos messages. Vous écrivez à la rédaction afriquematin@rfi.fr. On est très flattés par le vôtre ce matin. Monsieur Gay, vous êtes enseignant-chercheur et vous nous félicitez pour notre professionnalisme. On est très flattés, soyez-en remerciés. L'actualité internationale revient dans une quinzaine de secondes. Cocktail care.